VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Lomé, 18h à Bujumbura. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité, le bilan s'alourdit suite au tremblement de terre au Népal. On parle à présent de plus de 4000 morts et des centaines de personnes tentent aujourd'hui de fuir Katmandou, sa capitale, dévastée par ce séisme. Dans ce pays où l'ONU a promis une aide humanitaire massive aux sinistrés. Jean-Roger Bion.
Alors que le bilan s'alourdit, les rescapés du tremblement de terre se ruent en masse sur les produits alimentaires et les stations-service pour faire des réserves, redoutant des pénuries. Les milliers d'habitants qui ont perdu leur logement et sont contraints de camper craignent maintenant d'avoir à faire face à des maladies. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU, le PAM, prépare une opération massive d'aide et espère envoyer au plus vite un premier avion chargé d'aide alimentaire. Les enfants sont particulièrement fragilisés par le sinistre et près d'un million d'entre eux ont un besoin urgent d'aide humanitaire selon l'UNICEF. Les secouristes népalais reçoivent le renfort de centaines d'humanitaires arrivés de pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis et de nombreux États et organisations ont promis leur aide. Les hôpitaux sont débordés et les médecins sont mobilisés 24 heures sur 24 pour soigner les blessés dans des conditions très difficiles. Les morgues arrivent quant à elles à saturation. Le tremblement de terre est le plus meurtrier qu'a connu le Népal depuis 80 ans.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, la police anti-émeute a dispersé de nouvelles manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall.
La police, appuyée par les Imbonerakure, une milice proche du parti au pouvoir, ont dispersé de manière musclée les milliers de personnes qui avaient osé braver l'interdiction de manifester. Hier, au moins deux manifestants ont été tués par balle à Bujumbura. Ce lundi, Pierre Clavé Mbonimpa, défenseur des droits de l'homme, a été arrêté et un mandat d'arrêt a été lancé contre Vital Chimirimana, président du Forum de la société civile. Ils avaient appelé à des manifestations pacifiques. Les autorités burundaises ont fermé la radio publique africaine, principale radio indépendante du pays. Depuis hier, trois grandes radios privées ont été interdites d'émettre en dehors de la capitale. Et elles sont accusées d'inciter les populations au soulèvement. Craignant le pire, au moins 17 000 Burundais ont fui vers le Rwanda et la République démocratique du Congo. Réagissant à la candidature de Pierre Nkurunziza, les États-Unis disent regretter le non-respect de l'accord d'Arusha qui limite à deux les mandats présidentiels et dénonce une occasion ratée pour la démocratie au Burundi.
Au Togo, le président sortant fort Gnassingbé est en tête des premiers résultats partiels de l'élection présidentielle de samedi dernier. Plus de précisions avec Eddy Issango.
Il est encore trop tôt pour parler des tendances déterminantes de ces élections. La Commission nationale électorale togolaise n'a publié lundi que 12% des résultats. Toutefois, Faure Gnassingbé mène largement avec plus de 133 000 voix, soit 62% des suffrages dépouillés. Son principal adversaire, Jean-Pierre Fabre, vient en deuxième position avec plus de 68 000 voix, soit 32%. Les autres candidats de l'opposition nagent encore autour de 1% pour ces élections boycottées par une partie de l'opposition. L'opposition avait en effet, avant ces élections, organisé plusieurs manifestations exigeant la révision de la Constitution pour empêcher un troisième mandat de Gnassingbé qui prolonge à la tête du pays un régime dirigé par sa famille depuis 48 ans. La situation reste pour le moment calme, mais tendue au Togo. Le président Gnassingbé avait initialement été porté au pouvoir par l'armée en 2005 à la mort de son père, le général Gnassingbé Yadema, qui avait gouverné le Togo d'une main de fer pendant 38 ans. Mais il a organisé en 2010 des élections qu'il a remportées malgré les contestations de l'opposition qui ont fait des centaines de morts.
Au Nigeria, des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram auraient abattu 21 déplacés qui tentaient de regagner leur village situé dans le nord-est du pays pour y chercher à manger. C'est ce qu'ont déclaré aujourd'hui un responsable local et le parent d'une victime à l'AFP. Selon le témoignage de Baba Nuhu, un responsable de la localité de Goujba dans l'état de Yobe, les hommes étaient au nombre de 21. Ils ont été arrêtés dans le village de Boultaram par des hommes armés et qui les ont abattus par balle. L'État de Yobe, les États voisins de Borno et d'Adamawa ont été le théâtre de très nombreuses attaques de Boko Haram ces 6 dernières années. Au total, l'insurrection islamiste et sa répression par l'armée nigériane ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009, selon l'ONU. Et plus de 1,5 million de personnes ont été aussi obligées de fuir leur domicile pour se réfugier dans les pays voisins ou en périphérie des grandes villes de la région. Direction le Soudan à présent, où le président Omar al-Béchir a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays avec 94% des suffrages. L'opposition a boycotté le scrutin, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Lionel Gaïma.
La commission électorale a annoncé aujourd'hui cette victoire largement attendue après les élections présidentielles, parlementaires et régionales qui se sont déroulées du 13 avril au 16 avril. M. Béchir est au pouvoir depuis 1989 et il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. L'homme fort de Khartoum n'avait en face de lui que 13 challengers plutôt inconnus et la participation n'a été que de 46% selon la commission électorale soudanaise. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège avaient tous critiqué cette élection, déplorant l'absence du dialogue national promis, une situation qui prive le Soudan d'un processus politique inclusif.
En Afrique du Sud, alors que le pays est montré du doigt après les violences xénophobes, le président sud-africain Jacob Zuma a interpellé ses voisins africains, leur imputant les causes de l'immigration massive en Afrique du Sud. « Nous avons peut-être un problème de xénophobie », a-t-il dit, précisant « nos pays frères y ont contribué ». Pourquoi leurs citoyens ne sont-ils pas dans leur pays ? S'est-il interrogé lors d'une allocution prononcée à Pretoria à l'occasion de la fête nationale. Le président Jacob Zuma a consulté à tout va ces derniers jours après les violences qui ont fait au moins 7 morts depuis début avril à Durban et Johannesburg. Les réactions ont été parfois violentes dans le reste du continent après la vague d'agressions contre les étrangers en Afrique du Sud qui ont majoritairement ciblé des Africains. Des appels au boycott des produits sud-africains se sont multipliés tandis que le Nigeria a rappelé son ambassadeur à Pretoria. Condamnant une fois de plus ces débordements, le président Jacob Zuma a rappelé que les immigrés contribuaient à l'activité économique du pays. Il a cependant dénoncé un renforcement de l'immigration clandestine, les sans-papiers étant souvent accusés d'accepter du travail moins bien payé.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et dans le reste de l'actualité internationale, la justice militaire israélienne vient d'inculper 3 soldats soupçonnés de pillage, les premiers à être poursuivis pour des agissements de l'armée lors de la dernière guerre de Gaza en juillet-août 2014. Ces inculpations qui remontent à la semaine passée sont annoncées alors qu'est attendue sous peu la publication d'un rapport d'enquête de l'ONU qui doit se pencher notamment sur des frappes meurtrières subies par des abris de l'ONU et généralement imputé à Israël. Au Yémen, au moins 12 rebelles ont été tués ce lundi dans des raids aériens de la coalition arabe conduite par l'Arabie Saoudite contre leur position dans le sud du pays, théâtre aussi de violents combats au sol, selon des sources militaires et provinciales. 2 raids aériens ont en outre visé dans la journée des positions rebelles à Loder, la ville de la province d'Abyan, détruisant du matériel militaire et blessant plusieurs miliciens et militaires pro-salés. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé lundi à l'élimination des armes atomiques et a exhorté les délégués de la conférence du suivi du traité de non-prolifération nucléaire, le TNP, à travailler dur dans ce but. Les 190 pays signataires du TNP, entrés en vigueur en 1970, vont tenter jusqu'au 22 mai de relancer le désarmement nucléaire. Et pour terminer, 6 célèbres romanciers se sont retirés du gala d'une société littéraire américaine pour protester contre son choix d'attribuer le mois prochain une récompense pour la liberté d'expression au magazine satirique français Charlie Hebdo. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur voaafrique.com et notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur